prendre le large ce soir dans le rendez-vous. C'était facile. Hein. En direct sur France Culture, il sera question de paquebots, de marins, de mécaniciens, de huis clos, de l'Antarctique, d'amour impossible et même du mal de mer. Avec Lucie Borloteau qui réalise Fidelio, l'Odyssée d'Alice, un premier film tourné en mer pour portrait de femmes amoureuses en milieu masculin. Lucille Comeau.
Comment faire de l'espace à la fois infini et confiné d'un cargo le lieu de l'exploration du désir féminin.
19h30, place nette à Xavier Delaporte pour sa chronique Place de la Toile. Ce soir, Xavier, à votre programme.
Je vais spoiler un max, je vais raconter une série. Quoi.
Comme Benoît Lagan.
Ça se fait pas.
Voilà, mais pire, je vais tout raconter.
Pire, c'est pas possible. 19h35, plateau Épopée avec François Lepage qui signe la photographie de la bande dessinée La Lune est Blanche, un documentaire graphique sur une expédition scientifique en Antarctique. Benoît Lagan.
Et dans La Lune est Blanche, le photographe François Lepage retrouve le reportage et se confronte à une lumière grise et à l'immensité blanche pour tenter de mieux cerner son propre art.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, oui, le journal de la culture de Zoé Sfez que l'on ouvre sur le son du jour.
Sais-tu de l'amour? L'amour peut vivre sans être réciproque. Moi, j'ai connu l'amour. J'ai mis toute ma vie le corps dans cet homme. Je lui ai tout donné. Ma chair, mon sang, tout pardonné. Même ses trahisons. Que sais-tu du mariage? Comment tu es devenu la complice de ces paysans? Vous n'avez rien en commun.
Si, les chaînes que vous avez attachées au pied vous-même.
Oh. Je suis venu les détacher.
Bonsoir Zoé Sfez.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
C'est votre son du jour.
C'est la voix de la comédienne italienne Virna Lisi qui interprète la reine Catherine de Médicis dans La Reine Margot de Patrick Chéreau. Elle s'est éteinte aujourd'hui à l'âge de 78 ans. Découverte par Ittorio Gassman à Ancona en Italie où elle était née à l'âge de 16 ans. Cette très jolie blonde quand elle était jeune a débuté dans des rôles d'ingénue dans le cinéma italien. Puis sa carrière s'est internationalisée. Eva sous la direction de Joseph Luzzi avec Jeanne Moreau, La Tulipe Noire de Christian Jacques, Les Poupées de Dino Risi. Elle aura aussi une parenthèse hollywoodienne avec notamment Comment tuer votre femme. Puis sa carrière se poursuit quand elle vieillit jusque dans les années 90. Elle reçoit la consécration avec le prix d'interprétation à Cannes justement pour son rôle dans La Reine Margot. Elle avait aussi marqué le petit écran français avec Balzac, un téléfilm de José Dayan aux côtés de Gérard Depardieu.
Et tout de suite, on passe au dossier du jour consacré au piratage de Sony Pictures. La firme américaine a été hackée par un groupe baptisé les Gardiens de la Paix. Ils ont révélé des dizaines d'informations compromettantes pour le groupe. Ils menacent d'en révéler d'autres et même d'organiser des attentats si Sony ne retire pas de l'affiche une comédie, l'interview qui tue, ce que Sony a finalement accepté de faire.
Alors ce film, c'est une comédie assez grasse qui met en scène deux journalistes de télévision américaine à la recherche de scoops. Ils obtiennent, on ne sait pas trop comment, une interview avec Kim Jong-un, le leader du régime dictatoriale de la Corée du Nord, et la CIA leur demande d'en profiter pour le tuer. Voilà, alors c'est ce scénario qui a, semble-t-il, attisé la colère des hackers et provoqué cette attaque sans précédent, il faut le dire, dans l'histoire du cinéma américain. Pourtant, ce n'est pas la première fois qu'Hollywood s'en prend à la Corée du Nord dans les films, comme l'explique Nolwenn Mingan, elle est professeure de cinéma et spécialiste des marchés hollywoodiens.
Pour Hollywood, en ce moment, la difficulté, c'est de trouver des personnages qui seront les méchants. Avant le 11 septembre, il y avait tous les pays arabes. Après le 11 septembre, c'est devenu difficile. Et donc, il n'y a plus beaucoup de marché et il restait la Corée du Nord. Parce que comme la Corée du Nord est un pays où on ne distribue pas les films hollywoodiens, ça n'était pas problématique d'avoir des méchants nord-coréens. Et là, je pense à un film, par exemple, comme L'Aube Rouge, qui est sorti en 2012, où on imagine que la Corée du Nord envahit les États-Unis. Or là, on a un cas où c'est une comédie et que, contrairement à des incarnations précédentes des Nord-Coréens qui seraient voilà, des militaires, c'est des méchants, mais c'est des militaires, ici, on est vraiment dans rendre quelqu'un ridicule. Et je pense que le genre du film joue un grand rôle.
Alors non seulement le film est une comédie, mais en plus, ce film vise directement le leader du pays.
Oui, alors que jusque-là, on voyait des méchants, des Nord-Coréens, des soldats qui envahissaient le pays ou qui simplement étaient méchants, mais c'était des Nord-Coréens anonymes. Or là, cette fois-ci, c'est Kim Jong-un lui-même qui est visé. C'est une première, et comme l'explique Michael Sanke, journaliste, réalisateur et auteur d'une BD sur la Corée du Nord, où il a réussi à se rendre.
À partir du moment où on s'attaque à la figure du maréchal Kim Jong-un, donc le leader de la Corée du Nord, ça pose évidemment directement problème aux autorités, d'abord, et puis à Kim Jong-un lui-même, puisque en Corée du Nord, on ne touche pas à la figure de Kim Jong-un, qui est une sorte de président sacré. Dans le film The Interview, on se moque évidemment de Kim Jong-un. Et en plus, l'idée est d'aller le tuer à la fin. Donc d'un point de vue nord-coréen, c'est une attaque directe envers son leader.
Pourtant, les autorités nord-coréennes ont démenti être à l'origine de cette attaque.
Oui, alors elles ont démenti, mais elles ont quand même salué le juste combat des hackers. Alors, est-ce que ces hackers peuvent vraiment être nord-coréens ? Au début, on en doutait, on parlait simplement d'un coup de pub. Est-ce que c'est vraiment possible de mener une telle attaque dans un pays complètement coupé du monde et où l'économie est quand même encore sous-développée? Eh bien, pour Michael Stanke, oui.
D'abord, il faut savoir que ce n'est pas la première fois qu'il y a des cyberattaques qui proviennent de Corée du Nord. En général, c'est vers la Corée du Sud. On se souvient que l'année dernière, il y avait eu 20 000 smartphones sud-coréens qui avaient été piratés depuis le Nord par des pirates nord-coréens qui avaient envoyé en fait des mini-jeux vidéo sur des smartphones sud-coréens qui pirataient en fait les données de ces smartphones. Donc, ce n'est pas la première fois. Ils ont les capacités de le faire. Alors, évidemment, on ne sait pas exactement. Après, est-ce que c'est eux directement? Est-ce que ça s'est fait depuis le territoire nord-coréen? C'est très difficile de répondre à cette question.
Sous la menace, Sony a fini par céder en annulant l'avant-première du film en question et la sortie surtout sur les écrans.
Oui, et alors cette décision est carrément sans précédent. Elle fait scandale aux États-Unis où plusieurs stars ont protesté. En France aussi, Gilles Jacob, ex-patron du Festival de Cannes, a dénoncé une atteinte grave à la liberté d'expression. Michael Handke lui-même juge que les menaces d'attentat ne sont pas très crédibles. Mais pour Nolwenn Mingan, de toute façon, sur ce film, Sony avait déjà perdu la partie.
Ça ne m'étonne pas parce que si on pense à ce qui s'est passé autour de Dark Knight Rises en 2012, quand il y a eu un jeune homme qui a tiré dans un cinéma, ça a créé une baisse de la fréquentation. Et les gens ne veulent plus aller au cinéma et ne veulent plus voir les films dangereux. Donc pour eux, ils ont bien vu au bout d'un moment que les gens n'iraient pas voir le film, quand on parle de terrorisme, et donc ils ont préféré retirer le film. Mais ça crée un précédent, il va être extrêmement marquant.
Voilà, et justement Nolwenn Mingan qui considère que cette expérience va pousser certainement les studios hollywoodiens à revenir à une technique qu'ils utilisaient beaucoup avant et qu'ils avaient un peu plus honte d'utiliser aujourd'hui, c'est-à-dire dans leur prochain scénario, utiliser un pays fictif avec un leader fictif.
Peut-être des réactions à ce que l'on vient d'entendre de la part d'un spécialiste d'Internet sur notre chaîne, Xavier Delaporte.
Et ce qui est intéressant aussi dans cette histoire, c'est qu'elle menace un peu l'écosystème de la Silicon Valley, puisque parmi les données qui ont été révélées par ces fuites, il y en a certaines qui concernent directement de la stratégie d'entreprise, et notamment celle de Snapchat, vous savez, qui est la petite application de photos éphémères et de vidéos éphémères, puisque le PDG de Sony, Michael Linton, est au board de Snapchat. Et donc, du coup, dans les échanges de mails qui ont fuité, il y a des échanges de mails très, très stratégiques où on apprend des choses très intéressantes sur la stratégie de Snapchat, notamment son départ vers la musique, etc. Et que du coup, il y a vraiment de l'ordre d'une sorte de menace, de petits tremblements de terre au sein de la Silicon Valley qui est intéressant à suivre aussi.
Et l'on poursuit Zoé avec les brèves du jour.
Et l'on ouvre avec Jeff Koons, l'artiste Jeff Koons dont l'expo cartonne au centre Georges Pompidou, déjà 17 000 visiteurs, c'est un record, mais qui est aussi accusé de plagiat. Un huissier s'est rendu au centre Georges Pompidou pour prendre en photo sous tous les angles l'œuvre intitulée Faits divers. C'est un publicitaire pour Naf dans les années 80, Franck Davidovici, qui l'accuse de plagiat. Il a lui-même introduit le petit cochon de Naf dans les publicités de la marque de prêt-à-porter et il accuse Jeff Koons de contrefaçon pour cette fameuse sculpture qui présenterait selon lui de nombreuses similitudes avec la campagne automne-hiver Naf de 85.
Arcurial dépasse pour la première fois sur le marché français.
Dépasse pour la première fois Christie's, et ça c'est de ma faute mon cher Laurent Goumard. Christie's
non, c'est
a
vrai,
sauté.
Moi j'aime dire un mot sur quatre. Et ça laisse l'imaginaire de l'auditeur. Vous voyez,
voilà, c'est ça, Arcurial qui s'est hissé en 2014 à la deuxième place des maisons de vente en France, devançant donc pour la première fois Christie's France, mais Sotheby's reste toujours en haut. Arcurial qui a réalisé 192 millions d'euros de ventes en 2014, c'est 50% de plus qu'en 2011. On était le dernier des trois grands, on est désormais le deuxième, c'est un symbole très très fort.
Le budget de presque à l'équilibre pour...
Non, ça c'est méchant quand même.
Le budget de France Télévisions presque à l'équilibre pour 2014.
Ouais, ça c'est une très bonne nouvelle. Le conseil d'administration de France Télévisions a adopté jeudi le budget 2015 du groupe audiovisuel public qui prévoit un déficit réduit à seulement quasiment 10 millions d'euros contre 40 millions prévus pour 2014. Le déficit prévu pour 2015 est en net recul par rapport aux années précédentes puisque je rappelle qu'en 2013, le groupe avait enregistré une perte de 85 millions d'euros. C'est un quasi retour à l'équilibre.
Et la dernière?
Alors c'est une histoire très courte, c'est les vacances, je ne me suis pas vraiment foulée, c'est ce petit air de vacances, voilà. Mais justement, on est à Noël, vous en avez peut-être marre comme moi d'entendre des chants de Noël. Personnellement, je n'ai pas de goût particulier, pourtant je vais me chanter et chanter, maintenant on le sait.
Ça,
alors si vous en avez marre et que vous voulez entendre...
Gratifié d'un chant de Michel Legrand, donc.
Alors de la vraie musique, mais bon, quand même, tout en gardant un pied dans l'enfance, dans le ludique, dans le nostalgique, eh bien allez faire un tour sur la page YouTube de la pianiste Sonia Belousova. C'est une pianiste donc de l'Est qui a le don de reprendre facilement à sa sauce des petites musiques qu'elle écoute. Et elle a développé une véritable spécialité que moi je trouve fort sympathique sur les remixes de thèmes de jeux vidéo des années 90. Donc la musique de Super Mario Bros. 3, Castlevania, Mega Man 2, La Légende de Zelda. En général, c'était quand même des thèmes joués au synthé de manière assez vulgaire. Elle en fait des trucs très jolis. Je suis sûre que Benoît Lagan les connaît et pourrait nous les chanter, mais,
non.
Mais on va s'en tenir là.
Mais on n'a même pas de son.
Bah non, on n'a pas de son, ça s'appelle du teasing.
Vous savez, c'est à la grande époque de Benoît Lagan, il y avait des sons à la fin.
Oui, mais on m'a interdit de le faire cette année, je vous rappelle.
Ah ouais ? Non, moi j'appelle, je pense que vous avez raison, vous ne vous êtes pas, vous avez dit tout à l'heure, foulé. À demain, Zoé.
À demain.
19h20, le rendez-vous. C'est sur France Culture.
Plateau 3 mois en mer avec vous, Lucie Borloteau, cinéaste. Le 24 décembre prochain sortira votre premier long métrage, Fidelio, l'Odyssée d'Alice, sélectionné lors de la dernière édition du Festival de Locarno. C'est l'histoire d'Alice. Elle est interprétée par Ariane Labede. Employée de la marine marchande, elle accepte un remplacement dans la salle des machines d'un cargo. Elle laisse derrière elle son amoureux, Félix, un jeune dessinateur de bande dessinée d'origine norvégienne, pour une traversée de quelques mois. Et elle va réaliser, une fois à bord, que le capitaine, qui est joué par Melville Poupeau, est un ancien amant, c'est-à-dire son premier amour auquel elle va vite céder. Parallèlement à cette histoire d'amour, il y a une autre intrigue. Alice remplace un marin mort à bord du Fidelio, dont elle lit au fil de la traversée le journal de bord, bande-annonce.
Alice, second mécanicien.
Bravo, t'as assuré.
Félix, c'est Alice. On a du réseau en base Gibraltar. Les mails passent par le commandant. Alors évite les trucs cochons.
Ça va, sœur la mer ?
Ça va.
Et elle serait là.
Moi aussi.
C'est pas bizarre qu'on se retrouve à naviguer ensemble ?
Tu sais très bien que c'est la merde, ce truc, ça va nous péter à la gueule.
Who is the chief? Hear me!
Mon homme, c'est mon ami. Mais je veux que ce soit aussi mon amant, mon bandit, mon frère.
Toi, tu veux tout, en fait.
C'est ça pour moi la définition de l'amour. C'est tout. Ce qui se passe en mer reste en mer.
Je devrais faire gaffe, Alice, ça va savoir.
Avant, je croyais qu'on avait le droit qu'à un seul grand amour dans sa vie.
Pour votre premier long métrage, Lucie Borloteau, vous n'avez pas choisi la facilité. Vous avez tourné dans un vrai bateau, pas en studio. Beaucoup de contraintes techniques. Espace réduit, l'éclairage est compliqué, le bruit du vent, le bruit des machines, qu'on entend d'ailleurs dans la bande-annonce. Finalement, qu'est-ce que ça vous a permis de développer de telles contraintes ?
Je pense que finalement, ça a été très fertile pour moi, ces contraintes. C'est des contraintes de mise en scène, en fait. C'est comme un cahier des charges. C'est-à-dire que du coup, on est dans un espace très petit. On est obligé de vraiment réfléchir à la mise en scène, au découpage. En plus, cerise sur le gâteau, on ne peut même pas bouger les meubles qui sont soudés au sol sur un cargo. Donc on avait ça, on avait la météo pour laquelle on ne pouvait que prier les dieux de la mer qui nous ont exaucés, puisque le début du tournage, c'était le tournage en pleine mer et on avait exactement la bonne météo au bon moment pour les scènes qu'on tournait en mer. C'était assez fabuleux, c'était comme un petit signe. Moi, j'aime bien les défis. Voilà, je pense que c'est tellement difficile de faire un film qu'il vaut mieux se fixer des défis au départ qui ont l'air impossibles. C'est ça qui nous donne de la force.
Dans une salle de machine qui est très exiguë, on ne peut rien bouger, le bruit est infernal, où on place la caméra ?
Eh bien, on place la caméra là où on a envie de placer son regard, j'ai envie de dire, comme dans n'importe quelle situation. Une salle des machines, pour moi, c'est un cadeau, c'est un décor qui n'a quasiment jamais été filmé. C'est un décor qui peut faire penser à des films comme Alien, par exemple, qui peut nous emmener dans un film apparemment réaliste, dans une certaine poésie, je trouve, une poésie industrielle que j'adorais depuis des années, avant même d'écrire ce scénario. Les quais, les ports, les grues, tout ça.
Pour quelle raison vous aviez déjà cette formation ?
Parce que j'ai grandi à Nantes avant qu'il y ait des grands travaux sur l'île de Nantes et que du coup c'est un paysage qui fait partie de mon enfance, de mon adolescence et c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé d'une grande sensualité paradoxalement qui va bien avec un film d'amour pour moi.
Est-ce que vous comprenez François Lepage, vous qui êtes aussi né, enfin pas vraiment, mais un peu dans la même région à Saint-Brieuc et qui partait plus tard dans l'Antarctique ?
Oui, je suis né à Rennes.
Ouais.
Et vous me disiez ?
Non, je voulais juste...
Je crois qu'on est tous, on est tous très enrhumés autour de la table. Donc c'est normal qu'à un moment donné, on n'entende pas les questions. Non, je me demandais si vous compreniez justement si vous aviez la même envie de grands espaces étant né en Bretagne, même si Rennes n'est pas véritablement.
Je dirais, moi, mon père avait fait un séjour dans la marine à bord de la Jeanne d'Arc. Et je pense qu'effectivement. Ah oui. Ça m'a fait beaucoup rêver quand j'étais enfant, la mer. Et je n'avais jamais songé à y partir. Je n'ai jamais songé à embarquer sur un navire. Et les choses se sont faites de façon totalement imprévue. On m'a proposé un jour d'embarquer sur le Marion Dufresne. Mais ce n'est pas du tout quelque chose que j'avais envisagé de faire.
On en parlera tout à l'heure. Lucille Comeau.
Pour écrire Lucie Borloteau, vous avez vous-même fait une traversée de l'Atlantique à bord d'un cargo sur lequel vous étiez la seule femme, la seule française aussi, comme l'héroïne du film. Qu'est-ce qui vous aura le plus surpris dans ce que vous avez observé par rapport à ce à quoi vous vous attendiez peut-être ?
Finalement, je n'étais pas si surprise parce que j'avais déjà beaucoup enquêté. Puis moi, ma porte d'entrée vers ce milieu, c'est ma meilleure amie en fait, qui a inspiré le personnage d'Alice et presque tout le film, qui est officier mécanicien dans la marine marchande et qui m'avait déjà beaucoup raconté. Je pense que ce que je ne pouvais pas imaginer, c'était de l'ordre de la sensation. C'est quelque chose que j'ai essayé de retranscrire dans mon film. C'est-à-dire, j'espère que les spectateurs, ils ont l'impression de passer un moment à bord, quand ils descendent dans la salle des machines, non seulement de voir ce décor très graphique, mais aussi d'éprouver à travers les sons, le montage, une sensation de chaleur, presque l'odeur du fioul, des choses comme ça, des choses vraiment de l'ordre très, très sensuel. Et puis aussi, c'était d'observer vraiment le quotidien. C'est-à-dire, on m'avait raconté beaucoup d'histoires, mais les histoires qui se racontent, les marins racontent plutôt des histoires extraordinaires, les serpents qu'on trouve dans les filtres de mer, les histoires de clandestins, enfin les aventures. Et là, c'était vraiment le quotidien de voir comment tout est ritualisé, les repas qui sont pris à bord avec des places fixes, les liens qui se tissent entre les hommes et les femmes quand il y en a une. C'était ça en fait, c'était vraiment d'observer l'humanité voilà, sur ce petit cargo, gros cargo.
Vous aviez d'abord pensé à réaliser un documentaire sur la marine marchande. Qu'est-ce qui vous a finalement décidé à écrire un film de fiction ?
Eh bien, c'est parce que je voulais que le cœur du film, ce soit vraiment l'amour, en fait, comme les moyens-métrages que j'avais réalisés auparavant. Moi, c'est le terrain d'exploration qui est le mien. Et du coup, je ne me le sentais pas de demander à des personnes réelles d'exposer leurs histoires d'amour, leur intimité. D'autant que, comme on le dit dans la bande-annonce, ce qui se passe en mer reste en mer. Ce serait indiscret de demander à des gens d'exposer les choses cachées. Et du coup, j'ai décidé d'écrire une fiction, un personnage de fiction. Tout ce qui est arrivé à mon héroïne n'est pas arrivé à mon amie, et j'ai repris une figure assez classique du triangle amoureux d'une femme comme ça qui est entre deux hommes, peut-être même plus, en essayant que ce soit pas seulement elle doit choisir entre deux hommes, en fait elle veut pas choisir Alice, c'est ça son problème.
Vous faisiez référence à l'instant au fait qu'auparavant vous aviez tourné des moyens-métrages et pas des courts-métrages, et j'ai pu lire dans un entretien que vous aviez du mal à faire court. Vous comprenez pourquoi ?
Je pense que j'aime les récits, j'aime les histoires, j'aime aussi des films qui racontent pas d'histoire d'ailleurs, mais moi il se trouve que c'est ça qui me sied le mieux. Et là je suis au comble du bonheur avec ce premier long métrage parce que enfin j'ai l'impression d'avoir le temps de déployer vraiment des personnages et des histoires qui s'entremêlent sur ce navire. Et c'est vrai que du coup j'ai jamais réussi, pour moi les gens qui arrivent à faire des bons courts métrages, ça relève d'un exploit.
Lucille.
Alors pour son anniversaire, Félix, l'amoureux resté à terre, envoie à Alice un carton plein de livres liés à la mer, du Melville, du Duras, entre autres. Je sais que c'est une littérature que vous avez relue, vous, pendant l'écriture du scénario. Est-ce qu'il y a un texte en particulier qui vous a inspiré ?
Eh bien, je pense que je pourrais en donner deux. Je resterai sur Marguerite Duras, Le marin de Gibraltar, excusez-moi, j'avais comme un trou, le marin de Gibraltar, parce que l'amour est complètement au cœur de ce roman. Et je citerai aussi le livre de Conrad, La ligne d'ombre, parce que je lui ai piqué l'idée du début de mon film, c'est-à-dire que Alice embarque effectivement pour remplacer quelqu'un qui est décédé, elle prend la place d'un mort. Et ça, c'est le même début que dans La ligne d'ombre qui raconte le premier commandement d'un jeune marin.
Tout à l'heure, on parlait que vous aviez tourné dans des endroits exigus et pour autant, vous avez choisi le format scope, donc un format très large, dont vous dites qu'il renforce paradoxalement la claustrophobie des espaces clos. C'est-à-dire, comment vous avez expérimenté ce paradoxe ?
Des essais. Tout simplement, j'ai fait des essais. C'est-à-dire que moi, je n'avais jamais tourné en format scope et c'est vrai que ça me fichait un peu la trouille parce que les cadres ne se composent pas du tout de la même façon. Mon intuition pour le scope, elle venait de « je fais un film de mer, un film d'aventure, c'est le format idéal pour filmer l'horizon ». Il y avait un film comme ça aussi qui s'appelle « Le renard des océans » de John Sparrow qui est un espèce de classique hollywoodien, donc en scope des années 60, qui marche très très bien avec ça, les paysages, les lieux. Et c'est vrai qu'en faisant des essais, on s'est rendu compte que finalement, le scope permettait de renforcer l'impression de huis clos dans les coursives, à la machine, dans les cabines qui sont assez étroites. Et puis ça, c'est encore une contrainte supplémentaire, si vous voulez, qui m'a obligée à réfléchir, parce qu'on fait moins, on découpe moins aussi en scope. C'était le format idéal pour filmer un groupe humain. C'est-à-dire que c'est un cadre où, du coup, on peut faire
mettre
vraiment
tout le monde,
une galerie de portraits dans un seul plan. C'est aussi le format idéal pour filmer une femme allongée sur un lit ou un homme allongé sur un lit. Voilà, donc c'était vraiment parfait.
Un commentaire, François Lepage, vous qui êtes photographe ?
Oui, enfin, le commentaire, c'était surtout par rapport au titre du film, parce que je n'ai malheureusement pas eu l'occasion de voir, mais je trouvais ça intéressant, Fidelio, l'Odyssée d'Alice, ça me faisait penser à une vague. Alors je ne sais pas s'il y avait un rapport avec ça quand vous avez pensé le titre du film.
À une vague ?
À une vague.
Bah c'est joli, c'est parce que ça, c'est l'allitération.
Voilà, c'est l'allitération. Voilà.
C'est quand la vague vient lisser les galets sur la plage au début du film, vous y penserez. Et effectivement, moi, le film s'est longtemps appelé l'Odyssée d'Alice, tout simplement, parce qu'elle est vraiment au cœur du film. Et finalement, Fidelio, c'est le nom du bateau. Et il est aussi un personnage du film, il a un destin. On pourrait aussi résumer le film en disant c'est la dernière traversée du Fidelio. Et du coup, je trouve que les deux... je n'ai pas voulu choisir, en fait, vous l'aurez compris. Si vous avez vu le film, j'ai beaucoup de problèmes avec les choix. Et du coup, j'ai gardé les deux titres.
Lucille.
Comment vous avez trouvé justement le bateau sur lequel vous avez filmé ?
Eh bien ça, c'était un peu la chose qui me faisait le plus peur, en fait. Pourtant, faire un premier long métrage, voilà, on sait que ça va être difficile, mais ça, c'était vraiment pas évident, parce que le milieu des armateurs est un milieu extrêmement fermé, donc on a essuyé pas mal de refus, et je dois vraiment d'avoir trouvé ce décor à un homme au sein d'une compagnie marseillaise qui s'est pris d'amour pour notre projet et qui nous a ouvert les portes de sa hiérarchie. Et du coup, on a trouvé un navire qui était en plus ce qu'on recherchait, c'est-à-dire un navire qui a l'âge du Fidelio, qui a 20-30 ans, qui est vraiment comme ça, qui a une âme, qui en a vu, quoi. Et du coup, on a eu la chance de pouvoir tourner à bord en se basant sur une période d'arrêt technique de 3 semaines et en profitant de ces dernières rotations pour le tournage en mer. Et c'était donc un tournage qui se faisait sur un navire en activité, parce que même quand ils sont en arrêt technique, il y avait des marins à bord. On a travaillé en étroite collaboration avec eux.
Voilà. Lucille Borloteau, vous avez fait des études de cinéma à Paris 8 dans les années 2000. Quel était le cinéma que vous regardiez à l'époque ?
Dans les années 2000, je crois que c'est le moment où j'ai découvert le cinéma américain. C'est un peu honteux, c'est-à-dire que moi, j'étais très petite fille sage, en fait, dans ma province, et je lisais Télérama. Du coup, j'allais voir les films de Romère, j'allais voir les films de Desplechin, etc. Et je disais, moi, je n'aime pas du tout le cinéma américain, parce que je me la pétais un peu, en fait. Voilà, genre bon élève, quoi, première de la classe. Et puis, quand je suis arrivée à Paris, déjà, il y avait encore plus de cinéma. Et c'était le cinéma américain aussi classique. J'ai eu une prof extraordinaire à Paris 8 qui enseignait cinéma et tératologie. C'était un espèce de titre pompeux, mais en fait, c'était le film de genre, parce que tératologie, c'est la science des monstres. Donc, il y avait des films d'horreur, il y avait les films de David Lynch aussi. C'est un peu à ce moment-là que je me les suis pris comme ça, en pleine face, si j'ose dire. Oui, c'est pour moi, l'arrivée à Paris, c'est un moment un peu d'ouverture sur le cinéma que je n'ai pas encore parcouru, parce que là, il est tellement âgé maintenant, le cinéma, qu'il faudrait toute une vie pour voir tous les films qui valent la peine.
Lucille ?
Ensuite, vous avez travaillé chez Why Not Productions et là, vous avez rencontré Claire Denis, que vous avez assisté par la suite pour White Material, le film qu'elle a tourné en Afrique avec Isabelle Huppert. Qu'est-ce que vous avez appris sur ce tournage ?
J'ai appris que justement les choses qui avaient l'air impossibles étaient possibles, c'est-à-dire que c'était un film avec des vraies difficultés de tournage, une équipe qui part 2 mois et demi au Cameroun, à une journée de voiture des aéroports de Yaoundé ou de Douala, avec une équipe aussi qui s'est mélangée puisque c'était une équipe mixte entre Français et Camerounais, et donc qu'un film ça pouvait être comme ça, une aventure humaine qui paraissait audacieuse sur le papier, parce que c'était pas un film avec un budget démesuré, c'était quand même un film d'auteur. Et du coup, je pense que ça m'a donné beaucoup de courage. Et après, être aux côtés de Claire, c'était une expérience extraordinaire aussi de la voir, puisque j'ai suivi le film vraiment du développement du scénario jusqu'à la sortie. Et donc, c'était vraiment comme une sorte d'école, en fait, pour moi.
De quelle nature était votre collaboration avec elle ?
Eh bien, moi, j'étais un petit peu l'assistante qui était sa référence chez Why Not. Moi, mon rêve, c'était d'aller sur le tournage. Donc, quand j'ai eu enfin mon ticket pour y aller, j'étais folle de joie. Et c'est un scénario qu'elle a écrit avec Marine Diaye. Donc, ça, c'est pareil, c'est une chance de rencontrer des femmes comme ça. Je veux dire, c'est très inspirant. Et au bout d'un moment, quand on arrive juste avant le tournage, on a toujours besoin de retravailler un tout petit peu les scènes. Marine Diaye, elle n'était pas sur le plateau. Donc, moi, je l'accompagnais, par exemple, pour faire du traitement traitement de texte, mais à force de faire du traitement de texte, on parle des scènes, et en fait, on parle du scénario et on parle du film. Donc, c'était énorme, en fait, ce que ça m'a apporté.
Lucie Borloto, est-ce que... excusez-moi, la question vient de m'échapper. Je vais la rattraper. Allez-y, Lucille.
Moi, sinon, j'ai oublié de dire quelque chose. Paris 8, parce que j'ai eu un cours très marquant quand même avec Claire Simon, qui est vraiment la maîtresse du documentaire français, voilà, et qui nous a en fait poussé à faire des films, à arrêter de dire qu'on faisait des exercices. C'est-à-dire qu'elle nous disait, à partir du moment qu'on a une caméra, même un petit caméscope, elle nous disait, c'est une caméra, vous faites des plans, vous faites un film. Et peut-être c'est ça aussi qui m'a donné le goût d'une approche un peu documentaire parfois du cinéma. Voilà. Elle est très très dure, mais du coup c'est une très très bonne prof.
J'ai retrouvé ma question. C'est au niveau justement de l'image, et je voulais savoir si vous étiez au cadre quand vous filmez.
Je ne suis pas au cadre, j'ai un chef opérateur qui s'appelle Simon Beaufils, en qui j'ai entière confiance, parce qu'on avait déjà fait un moyen métrage avant. Par contre, il ne fixe pas un cadre sans moi, je viens toujours évidemment le vérifier. Je ne suis pas comme Claire Simon qui elle est au cadre, effectivement. Je choisis en revanche toujours des chefs opérateurs qui ont, un peu comme des acteurs, vous savez, qui ont un talent, qui sont nés acteurs. Moi, je trouve qu'il y a des chefs-op, ils sont nés cadreurs. Et pour moi, c'est le plus important. C'est plus important encore que la lumière. Voilà. Parce que moi, je ne saurais pas la manipuler, la caméra. Voilà.
Lucille.
Je reviens au film. C'est vraiment un film sur le désir féminin qui est représenté de manière, je trouve, vraiment très subtile, dans le silence, avec quelques mouvements de visage, des échanges de regards entre Melville Poupeau, pardon, et Ariane Labette. Comment est-ce que vous l'avez dirigée, elle, de ce point de vue-là?
Eh bien, je l'ai dirigé en fait comme tous les autres. Enfin, je pense, c'est-à-dire que j'ai pas de méthode spéciale. Tous les acteurs, pour moi, ils arrivent un peu égaux. Et après, j'essaye de me mettre justement au diapason avec la personnalité de chacun. Parce que moi, j'ai fait moi-même le casting. Et effectivement, du coup, c'est très important pour moi que chaque acteur arrive avec sa personnalité. Avec Ariane, ça a été très facile. C'est-à-dire que la première rencontre a fait on a senti qu'on pouvait s'entendre d'un point de vue humain, ce qui est déjà énorme. Et c'est d'ailleurs en la filmant moi-même, pour le coup, caméra au point, en faisant des essais dans la machine d'un navire, que je crois que j'ai commencé à prendre la décision que ce serait elle qui endosserait le rôle d'Alice. Et par rapport à la question du désir, parce qu'effectivement, il y a des scènes dans le film qui sont, j'ai envie de dire, oui, bon, elles sont crues, enfin, je veux dire, juste on voit, quoi, on voit ce qui se passe, et ça reste, je crois, joli et sensuel et joyeux. Ça, c'était très important pour moi. C'est que c'est des scènes, en gros, les scènes de nu, ça met toujours tout le monde très très mal à l'aise, même les techniciens, enfin, tout le monde est un peu gêné, embarrassé de faire ces scènes. Et moi, j'ai essayé de les faire un peu en s'amusant, parce que aussi j'avais envie de montrer l'amour physique peut être une chose lumineuse et joyeuse, ce qui n'est pas si souvent montré que ça au cinéma, surtout d'un point de vue féminin. Et du coup, ça, c'est Ariane, c'est quelque chose où elle était d'accord avec ça, et je pense qu'elle m'a fait confiance, et plus qu'à moi, elle a fait confiance au film, et du coup, elle a plongé.
Alors, comme depuis tous les jours, depuis la rentrée, on vous a demandé, comme nos autres invités, de nous apporter un son qui vous a marqué, et voici celui que vous avez choisi, Lucie Borloto.
À mon approche, debout il était plus petit. Je me suis dit, c'est dans la poche, ce mignon-là, c'est pour mon lit. Il m'arrivait jusqu'à l'épaule, mais il était râpé comme tout. Il m'a suivi jusqu'à ma piole, et j'ai crié, vas-y mon loup, fais-moi mal, Johnny, 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 envoie-moi au ciel, zoom, fais-moi mal, Johnny, 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 moi j'aime l'amour qui fait boum.
Il va lui faire mal, il va lui faire mal, il va lui faire mal, il va lui faire mal.
Il n'avait plus que ses chaussettes, des belles jaunes.
Identification de ce son et la raison pour laquelle vous l'avez choisi, Lucie Borloto.
Ben, je l'ai choisi parce qu'en fait, c'est ma chanson fétiche. C'est la chanson que je chante dans les réunions de famille. C'est mon père qui fait les chœurs. Et du coup, comme c'est bientôt Noël, je me suis dit, voilà, c'est un petit
clin d'œil. C'est presque une répétition générale.
Un clin d'œil à la famille, exactement. Voilà, voilà pourquoi.
Le rendez-vous, la chronique.
Lucie Borloto et François Lepage, on vous retrouve dans quelques instants, mais tout de suite, la chronique Place de la Toile de Xavier Delaporte en partenariat avec Rue 89, dont vous êtes le rédacteur en chef.
Eh ben oui.
Et ce soir, le thème? Et vous allez spoiler.
Voilà, je vais spoiler, je vais raconter une série et je suis assez ému de parler sous le haut patronat de Benoît Lagan ici, qui est un peu le maître des séries.
Oui, le spécialiste.
Parce que je viens de terminer, je l'ai un peu binge-drinké, je fais plein d'anglicismes, oui, c'est vrai, oui. J'ai tout regardé d'un coup. La quatrième saison de Homeland. Homeland, c'est une série américaine qui a pour toile de fond la traque des terroristes islamistes dans le Moyen-Orient post-11 septembre et pour héroïne, une agente de la CIA qui est à la fois extraordinairement douée et tenace, mais bipolaire. Cette quatrième saison a une caractéristique majeure. Si l'intrigue relève d'un registre qui est désormais classique, c'est-à-dire opération de renseignement et d'infiltration en terre musulmane, élimination des ennemis de l'Amérique, rapports compliqués entre les États-Unis et les pays où ils opèrent, en l'occurrence c'est le Pakistan, prise d'otages, attentats, etc. Le vrai intérêt réside ailleurs, à mon sens, c'est dans l'usage des technologies. Et d'abord des drones. À ce propos, il est significatif que le premier épisode de cette quatrième saison soit intitulé « Drone Queen », la reine des drones, titre antifrastique puisque ce premier épisode raconte une frappe aérienne sur un bâtiment où est censé se trouver un chef taliban, ce premier spoil, mais où en fait a lieu un mariage. Les bombes tuent des innocents. Je vous ai dit, je spoil juste à mort. Les bombes tuent des innocents, c'est le point de départ de l'intrigue de cette saison, mais si cette bavure a pu avoir lieu, c'est parce que les images du drone qui surveillait la zone étaient insuffisamment précises, ou plutôt parce que le chef taliban en a joué, deuxième spoil, donnant tous les signes de sa présence alors qu'il n'était pas là, troisième spoil. Et c'est de cela dont joue cette nouvelle saison de Homeland, de la nature très ambiguë de ce nouvel outil de la guerre. Outil à la fois essentiel et fascinant, qui permet depuis le ciel et sans risquer la vie d'aucun homme de fournir des images qui sont nécessaires à la guerre moderne. Et de fait, du point de vue esthétique et narratif, la série joue pleinement de ces images en plongée, avec des zooms, des plans aplatis et tous les effets de tension que ça peut créer chez le spectateur. Mais le drone, c'est aussi un outil fragile et faible. Faible parce qu'on peut le tromper et faible aussi parce qu'on peut en jouer, jouer avec ses yeux mécaniques, comme dans cette scène, quatrième spoil, où le chef taliban qui se fait observer par un drone abat son neveu, retourné par les services américains, là il y a 10 spoils en même temps,
oui, bah c'est dur,
en choisissant le bon angle, celui qui effraiera le plus la CIA. Le drone est partout dans cette saison, mais il est souvent associé à une forme d'impuissance. Et c'est cela, me semble-t-il, très significatif d'un état de la réflexion collective, et particulièrement aux États-Unis sur cet objet. À la fois, il est un adjuvant nécessaire à la guerre d'aujourd'hui, quand l'ennemi n'est plus une armée constituée. D'ailleurs, je fais une parenthèse, mais ce dont la France s'est aperçue au Mali, hein, parce qu'elle a dû travailler avec des drones américains avant de lancer un programme de fabrication de drones européens. Mais aussi, il est largement mis en cause, le drone. On n'est plus aujourd'hui au milieu des années 2000 quand tout le monde se félicitait que le président Obama continue la guerre contre le terrorisme lancée par son prédécesseur George W. Bush, mais sans plus envahir de pays, sans plus risquer la vie des soldats américains, sans plus remplir Guantanamo ou autre prison secrète de djihadistes plus ou moins coupables. Aujourd'hui, on en est revenu, le drone est questionné. Et comme l'a analysé Grégoire Chamaillou dans sa formidable théorie du drone, le drone est l'outil d'une guerre sans front, d'une guerre sans temporalité, parce qu'il n'y a pas de fin possible à une guerre menée avec des drones de combat. Une guerre dont les innocents ne sont pas épargnés, puisque la frappe soi-disant chirurgicale est en fait loin d'être aussi précise que la chirurgie, heureusement pour la chirurgie. Une guerre qui ne crée pas d'opposition, parce que ne mettant pas en jeu la vie des soldats, eh bien, elle élimine le principal ferment d'une opposition à la guerre, qui est de voir revenir des corps de compatriotes. En substrat, donc, sans être une démonstration, cette quatrième saison de Homeland entérine les critiques, elle les a absorbées, elle en fait de la fiction, mais ce qui est rigolo aussi dans Homeland, c'est que bien d'autres outils technologiques sont des éléments essentiels du récit. Bon, les ordinateurs, évidemment, mais aussi les smartphones. Ainsi, cette scène hallucinante pendant laquelle un agent de la CIA débriefe un otage tout récemment libéré, il spoil en même temps, et ne lui pose des questions que sur les téléphones de ses preneurs d'otages. Quelle marque avait-il? Quel type d'écran, etc. Et il s'afflige, ce jeune agent, que l'ex-otage, lui-même ancien directeur de la CIA, n'ait aucune information à donner. « Je suis vieux », répond celui-ci. Oui, il est sans doute d'un âge où l'on pouvait enregistrer comme renseignement des paysages, des odeurs, des accents, mais pas des marques de téléphone. Et puis, il y a aussi les réseaux sociaux, puisque deux vidéos postées sur YouTube, l'une de la frappe aérienne vue depuis l'intérieur du bâtiment où se déroulait le mariage, et l'autre du lynchage d'un agent américain par la foule dans les rues d'Islamabad, ont un rôle majeur dans la saison. Elles sont comme un miroir des images du drone, mal filmées, données à tous. Elles sont accidentelles, mais leur force et leur puissance, la puissance de leur diffusion, les rendent d'une efficacité symbolique supérieure. Et voilà comment, non seulement donc on spoil une saison entière en 2 minutes 30, mais comment, dans une série pas géniale par ailleurs, sont délivrées, l'air de rien, quelques vérités subtiles de notre vie numérique.
C'est parfait, Xavier. Moi, je pensais me faire cette série pendant les vacances. Ben, je vais regarder Hercule Poirot, comme chaque année.
Non. Alors, vous la regarderez comme une tragédie. Ah, c'est oui. Ça, en sachant la fin, peu importe. Ce qui est important, c'est le trajet jusque... Non ?
Non, je ne sais pas. Non, ce sera Hercule Poirot. Mais de toute façon, je me fais ça chaque année. C'est chez ma mère. Non, c'est pas ça. Est-ce qu'il y a des réactions à ce que l'on vient d'entendre ? Non.
Moi, je n'ai rien compris.
Oh non !
On lui fait le coup chaque fois.
Mais oui,
on
les paye. Mais pourquoi les invités comprennent jamais rien à ce que je dis ? C'est incroyable.
Interrogez-vous, Xavier Delapain.
D'ailleurs, moi non plus, j'ai rien compris.
Parce que vous êtes là, vous bateau. Parce que vous avez trop spoilé, c'est pour ça. C'est pour ça. On restait chaque fois sur les épisodes.
C'est tellement lointain de mon monde, moi, que je.
Vous ne regardez aucune série ?
Aucune série. J'ai pas le temps, en fait. Je trouve pas le temps de regarder des séries. Je préfère être dehors.
Ah oui, ça c'est vrai que c'est incompatible. Plastro.
Oh
là là, mais la maladie est vraiment une souffrance. Plateau L'Astrolabe avec vous, François Lepage, photographe et co-auteur de la bande dessinée La Lune est Blanche, qui vient de paraître aux éditions Futuropolis. C'est un documentaire graphique qui relate votre voyage en Terre Adélie au pôle Sud. Vous êtes invité par l'Institut Polaire Français. Vous intégrez une mission scientifique sur la base antarctique du mont Urville pour reporter le travail des savants sur place. Moi aussi, je sais spoiler. Mais vous n'allez pas seulement être témoin, vous allez aussi participer au raid de ravitaillement de la station Concordia. Non, mais c'est incroyable. Comme quand on
ça, c'est
malade,
l'effet gastrolabe, je pense. C'est l'astrolabe, c'est l'effet gastrolabe. Tout le monde est malade à bord de ce bateau. Donc, je pense que vous avez dû embarquer un petit peu pour l'Antarctique avec nous,
c'est
quelque part.
C'est véritablement ce qui s'est passé.
Voilà, tout à fait.
Donc, vous devez participer au raid de ravitaillement de la station Concordia, qui est située à 1200 km de la base d'Urmont-Durville, et de devenir, de fait, chauffeur de tracteur au cœur des glaces polaires. Je passe le relais. Benoît, alors, sauvez-moi.
Ah, mais il ne me reste plus rien à dire.
C'est la première fois.
On est obligé quand même de raconter l'histoire, mais ensuite, on a des questions.
Alors, François Lepage, c'est la première fois que vous construisez un récit commun à partir des dessins de votre frère Emmanuel Lepage et de vos photographies. Quelles règles vous vous êtes imposées afin que vos photos puissent s'intégrer parfaitement dans ces dessins ou inversement?
En fait, aucune règle, puisqu'on n'avait pas du tout discuté du projet, je dirais, en amont.
Vous ne saviez pas du tout, vous alliez faire un album commun, photo et...
Tout à fait, on avait ce projet, mais on n'a pas du tout discuté de la forme que ça allait prendre et comment les choses allaient se faire. La seule chose qui avait été définie, c'est qu'Emmanuel serait donc le maître du récit. Voilà. Et donc, moi, quand je suis rentré avec mes photographies d'Antarctique, j'ai donc donné à Emmanuel environ 70 photos qu'il a utilisées, donc... et autour desquels il a construit son récit. Voilà. Après, moi, c'est vrai que moi, j'ai fait mon écriture de ce voyage, c'est-à-dire que j'ai fait bien plus que 70 photos, vous imaginez bien, et j'ai écarté, en fait, de ma sélection toutes les photos qui ne m'intéressaient pas, dans le sens où je voulais pouvoir écrire une vision de ce territoire, quelque chose qui était vraiment... qui ressemblait à ce que moi j'avais vécu de l'intérieur. C'est-à-dire il n'y a aucune photo illustrative, il n'y a pas qui montre une action particulière. C'est des photos qui sont très très contemplatives et je pense que c'est ce qui a aussi imprimé la marque à ce récit.
Je crois que vous avez regardé ce récit, vous l'avez lu, Lucie Borloteau.
Mais moi il me semble que vous écrivez à votre femme, non, dans le...
Oui, tout à fait.
Alors, c'est quelques lettres.
Oui, en fait, c'est vrai. J'ai effectivement, c'était une façon pour moi de garder le fil, donc bien sûr avec ma compagne, mais aussi de collecter une matière.
Mais c'est une matière d'introspection, voilà. Finalement. Voilà, moi, ça m'a fait penser effectivement à comment on a essayé, nous, de jouer avec l'histoire du carnet, du marin mort, etc. C'est des voix comme ça, intérieures, finalement, les lettres, quand on est éloigné. Moi, il y a beaucoup de choses que j'ai trouvées. Ben, d'abord, c'est très, très beau comme objet. C'est un très, très beau livre. Mais par rapport à la matière du livre, d'abord, ça m'a fait sourire parce qu'à un moment, ça marche pas, le raid va pas se faire, et ils disent rien ne se passe comme prévu, ils sont en colère les deux frangins sur l'Antarctique, et je me suis dit ah voilà pourquoi je n'ai pas fait un documentaire parce que sur un documentaire parfois rien ne se passe comme prévu. Et j'aime beaucoup aussi la galerie de portraits en fait des gars du raid. Moi ça m'a fait penser à ce que j'ai essayé de faire avec le groupe des marins, et notamment ce type qui dit que lui c'est le ciment de son couple en fait, il peut pas rester avec sa femme, celui qui est mécanicien je me souviens plus son nom, dans les Alpes, c'est ça qui revient dans les Alpes après. Il dit voilà, si moi avec ma femme on fonctionne comme ça, si je suis là tout le temps ça marche.
Ah oui,
plus.
D'accord.
Voilà, et ça, je sais pas, ça faisait des passerelles comme ça. Puis le truc complètement dingue, non mais ça faut quand même que je le dise, c'est que dans les premières versions du scénario, à la fin, Alice elle voulait quitter la marine marchande parce qu'elle trouvait ça un peu sale parfois les pratiques à bord, etc. Et elle partait pour les missions avec l'Astrolabe du Mont d'Urville, etc. Et comme son compagnon était dessinateur, il en faisait un livre et le film se terminait comme ça. Donc quand j'ai reçu le livre pour préparer l'émission, j'ai eu une sorte de choc thermique, c'est le cas de le dire, parce que c'était comme une fin qu'on avait rêvé à un moment pour Fidelio, qui n'est pas celle-là. Pour voir la fin, il faudra aller voir le film. Voilà.
François Lepage, justement, à propos des lettres que vous écrivez à votre femme, il y en a une où vous racontez que vous retrouvez, je cite, le désir de photographier en raison de la lumière crue, de la chaleur australe et de la couleur. Or, très vite, c'est surtout une lumière grise et d'immenses paysages blancs qui vont s'imposer. Comment vous vous en êtes débrouillé ?
C'est vrai que c'est très compliqué parce que pendant ce voyage, en fait, c'est toute la difficulté. C'est-à-dire que d'abord, dans un premier temps, on est sur un bateau. Donc le point de vue est toujours le même, on est sur le bateau. Ensuite, on est pris dans les glaces. Et ensuite, on est sur un raid, donc au volant d'un tracteur, et on est sur un fil, c'est-à-dire qu'on ne peut absolument pas descendre, enfin, on ne peut absolument pas se dégager de ce fil. Et c'est assez compliqué parce que on vit une sorte d'enfermement, en fait, effectivement. On est face à un territoire où tout est loin, c'est-à-dire c'est très difficile de photographier parce qu'il n'y a pas de, plan successif. Donc ça me fait penser à une conversation dans un livre entre Raymond Depardon et Titouan Lamassou qui, justement, comparait leur expérience, l'un du désert et l'autre de la mer. C'est-à-dire qu'en même temps, on a une émotion qui est très, très forte, mais en même temps, c'est extrêmement difficile de traduire cette émotion en photographie. Et c'est effectivement toute la, je dirais, le défi. Alors, il y a des moments on est un petit peu, on est pris de panique et on mitraille d'une certaine façon, on se raccroche à la paille, quoi. On se dit, il faut quand même ramener quelque chose. Mais je pense que tout le travail, c'est justement de retrouver son calme intérieur, de retrouver son centre de gravité et d'essayer justement de ne photographier que dans ces moments où l'émotion est forte et où, je dirais, la forme s'impose.
Benoît. Vous écrivez aussi au début du voyage, je trouve mon travail fade, approximatif, ça ne percute pas, l'image que je cherche ne vient pas et le chercher semble l'éloigner encore plus de moi. À quel moment ou avec quelle photo avez-vous eu l'impression que vous aviez enfin trouvé l'image que vous cherchiez ?
Je dirais la première image qui m'a intéressé, c'est celle que l'on trouve dans le livre où l'on voit trois pétrels. Ce sont des oiseaux un peu, qui ressemblent un peu à des oiseaux de glace qui se dirigent comme ça vers un iceberg. C'est une photo qui me donne l'impression d'être truquée. On a l'impression que j'ai rajouté les oiseaux qui se dirigent vers l'iceberg. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est cette espèce de miracle photographique, c'est-à-dire que c'est quelque chose de totalement incalculable, mais j'ai le sentiment que ce sont des choses qu'on ne peut capter que dans des moments où on est très calme et où on ne cherche pas obligatoirement à illustrer quelque chose ou à, je dirais, faire une photo spectaculaire, mais où on est tellement bien qu'on va faire une photo qu'on ne verra qu'après. Et c'est ça qui m'intéresse dans la photographie. C'est-à-dire que je me rends compte, quand je regarde un petit peu le travail que j'ai fait, j'ai le sentiment que ce sont toujours les mêmes images qui reviennent. Comme si, dans le réel, j'essayais d'attraper des images qui sont en moi-même, des images inconscientes, des images profondes, et qui reviennent dans des moments où je suis en dehors du mental. C'est-à-dire que ça ne passe pas du tout par la pensée. Ça passe par, justement, ce calme intérieur, quelque chose que moi, je travaille par la méditation, par exemple. Mais c'est quelque chose, c'est une perception qui n'est pas une perception consciente des choses.
C'est quoi les images qui reviennent tout le temps chez vous ?
Ben, en fait, j'ai remarqué dans mon travail qu'il y a toujours...
François Lepage.
Ouais, les images qui m'intéressent sont toujours des images d'hommes ou de femmes, mais en tout cas de personnages qui sortent du cadre et qui essayent de s'échapper comme ça du cadre et qui marchent d'un côté ou de l'autre de l'image. Et je me rends compte que ce sont des images qui reviennent en permanence. Et je n'ai pas compris pourquoi, mais c'est des choses c'est ce qui me trouble dans ma photographie et dans la photographie. Et en fait, au départ, je suis parti, je dirais, le premier voyage que j'ai fait dans les terres australes, j'ai essayé, je dirais, de faire un grand reportage. Donc, il était question de faire des portraits de marins, de faire des photos des animaux, de la mer, etc. Et quand je suis parti en Antarctique, ma question, c'était non, je vais faire les photos que j'ai envie de faire. Je n'ai rien je n'ai rien à rapporter, je n'ai rien à prouver. La seule chose que je dois faire, c'est de faire un livre avec Emmanuel. Et donc, ma démarche a été celle-ci, c'est de me dire, de me laisser habiter par ce que j'avais envie de dire en photographie et de laisser les choses venir d'elles-mêmes. C'est ça qui m'intéressait.
Et qu'est-ce que vous avez compris, justement, puisque vous travaillez en collaboration avec votre frère, qu'est-ce que vous avez compris de l'art de chacun de vous, de son travail et du vôtre ?
Disons que c'est vrai qu'Emmanuel, en tout cas, déjà, m'a beaucoup appris dans le sens où je pense que j'avais toujours une insatisfaction. J'avais toujours le sentiment que ce n'était pas assez bien. Et en travaillant avec Emmanuel, en particulier lors de notre premier voyage, même si on n'a pas fait de
livres communs
sur ce premier voyage.
C'est la première fois. Ouais.
Mais c'était de se dire, voilà ce que j'ai fait dans un moment donné. Et de pouvoir apprécier ces moments-là, ces choses qui nous étaient données. Et ça m'a permis, moi, de me libérer de la pression de fournir des images spectaculaires, des images un peu lisses. Et aujourd'hui, je sens que je me détache de ça. que je sens que je reviens à moi-même et que ma photographie, qui est à l'origine, je pense, moi, je suis très inspiré par le reportage, par le grand reportage, et je me rends compte qu'aujourd'hui, c'est plus du tout ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est justement de mieux me comprendre, de mieux me connaître à travers la photographie. Et donc, c'est ça qui est un petit peu paradoxal aussi, c'est-à-dire que on part dans des endroits extrêmement lointains, on part dans des endroits, dans des déserts glacés. On se dit qu'on va trouver l'aventure sur ces territoires, mais l'aventure à vivre, elle est intérieure, bien sûr avec mon frère, mais elle est aussi intérieure. Ce qui est marrant en Antarctique, par exemple, on parlait de la difficulté de photographier un territoire comme celui-ci. L'Antarctique, c'est un grand désert de glace et il n'y a absolument rien. Il n'y a ni faune, ni flore, ni couleur. Donc, quand on est là au volant d'un tracteur, la seule chose que l'on voit, ce sont les ombres des tracteurs, les ombres des fumées. Mais en fait, c'est aussi nos propres ombres, parce qu'on avance comme ça sur ce grand territoire. On est au volant d'un tracteur 12 heures par jour. Il n'y a absolument rien à faire. Et donc, les pensées... on est bercé par toutes ces peurs, ces appréhensions qu'on peut avoir sur ce qu'on va ramener, sur les raisons pour lesquelles on est là, sur ce qu'on le ressent. Et puis, bon, tout cela, bien sûr, l'inconfort, je dirais, du voyage quand même, puisque c'est quand même un voyage dans un endroit un petit peu particulier. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un voyage, on se rend compte dans ce voyage que ce qui sort de ce voyage, c'est des choses qui sont à l'intérieur de nous.
Benoît, vous citiez Raymond Depardon tout à l'heure. Or, dans le texte, les questions de la photographie du président de la République, François Hollande, signé Raymond Depardon, une photographie qui, écrivez-vous, semble banale, qui paraît simple, non pas facile, mais c'est comme ça que je ressens les choses. Qu'appréciez-vous justement dans cette photographie-là pour qu'elle apparaisse et qu'elle intègre ce récit avec en fond les dessins de pingouins, de manchots de votre frère, un petit clin d'œil peut-être à la chanson de Carla Bruni, je ne sais pas.
Moi, ce qui me plaît en fait dans la photographie de Depardon, c'est aussi son parcours. Je dirais, c'est quelqu'un qui a commencé dans le reportage, dans le grand reportage, et qui petit à petit s'en est éloigné pour faire une photographie qui est beaucoup plus, enfin, qui lui semble beaucoup plus juste. Mmh. Et moi, j'ai toujours senti en Raymond Depardon un frère ou un père. C'est-à-dire que c'est quelque chose ces photos me semblent évidentes. C'est-à-dire, je me suis toujours dit, si j'avais photographié ça, je l'aurais fait comme ça. Et ce que je trouve intéressant, c'est sa façon d'aborder les choses. C'est peut-être plus le discours qu'il y a sur son... Enfin, le discours, la parole plutôt, qu'il y a sur sa photographie que la photographie en elle-même. Et je me rappelle avoir croisé lors d'une conférence Raymond Depardon, enfin, dans une conférence, et j'avais posé la question, mais comment avez-vous fait la photo du président? Et il m'a répondu, d'une façon très simple. En fait, il faut faire les choses simplement. Et ça m'a intéressé, cette réponse m'intéressait. Et c'est ça, quand je regarde la photo du président Hollande, il a fait les choses simplement, il a fait les choses certainement parce qu'il les sentait de cette façon juste. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est la justesse de la photographie.
François Lepage, on vous a demandé, comme à tous nos invités, de nous apporter un son qui vous a marqué. Voici ce que vous avez choisi.
Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule. M'élance et puis je recule. Devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile d'une rencontre. D'une rencontre. Je lui dirai les mots bleus. Qui rendent les gens heureux. Je l'appellerai sans la nommer. J'ai peut-être démodé. Le vent d'hiver souffle en avril. J'aime le silence immobile d'une rencontre.
Identification de ce son, François Lepage, et la raison pour laquelle vous l'avez choisi.
C'est vrai que
cette version bien particulière.
Oui, cette version bien particulière, effectivement. C'est Christophe, donc, qui chante Les mots bleus.
Une chanson de Jean-Michel Jarre.
Voilà, et ce qui me touche dans cette chanson, c'est que j'y vois la chute. Et je dirais, j'ai beaucoup hésité, je ne savais pas quel son j'allais vous donner. J'ai hésité entre la voix de Bachung dans son dernier album Bleu Pétrole. J'ai pensé au tour de Manhattan qui s'effondre le 11 septembre 2001 et j'ai pensé à cette chanson. Je dis au revoir à Lucie.
Qui part à l'avant-première voilà, de son film.
Elle y met une robe dans un taxi parce que j'ai ma projo.
Bon courage.
Bonne soirée, merci beaucoup.
Bonsoir. Et effectivement, ce qui m'intéresse, c'est le parcours de l'homme. Enfin, c'est la chute. C'est-à-dire, ce sont des gens qui, quand je vois cette chanson chantée par Christophe il y a 30 ans, et qu'on voit son regard un peu, voilà, qui cherche un peu, enfin, ce côté un petit peu romantique, et ce qu'il a été capable d'en faire 30 ans plus tard, j'imagine qu'il l'a chanté des millions ou des milliers de fois. Et ce qui m'intéresse, c'est ce parcours. Ce sont des gens comme Bachung qui me donnent envie de photographier parce qu'ils se relèvent de quelque chose. Et voilà, c'est ce qui me touche dans cette chanson. J'essayais d'attraper des images qui sont en moi-même et qui reviennent dans des moments où je suis en dehors du mental. C'est-à-dire que ça ne passe pas du tout par la pensée.
Lucie Borloteau, est-ce que... excusez-moi, la question vient de m'échapper.
Ce qui se passe en mer reste en mer.
Merci à nos invités. Lucie Borloteau, Fidelio, L'Odyssée d'Alice sortira en salle le 24 décembre prochain et François Lepage, La Lune est blanche, apparue aux éditions Futuropolis. Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais demain ?
Le soldat, le combattant, le civil, ils voient bien notre caméra. Hein. Ils nous donnent ce qu'ils ont envie de nous donner.
Demain, reportage de guerre et afropolitisme avec Patrick Chauvel et Thaïs Selassie. La session sera pop avec Myra and Mr. Mo. La désannonce, Sarah.
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Lucille Coumeau, Benoît Lagame, Aïssatou Endoy, Hippolyte Babilote et Sarah Ngota. Journal de la culture Zoé Sfez, chronique Xavier Delaporte, à la prise de son Stéphane Poitevin et Jean-Guy Lamège, à la réalisation Thomas Beau.
C'est pas si évident que ça se passait bien dans le bureau tout à l'heure pour la stagiaire, mais là il y a le trac. Il est 19h55, nous sommes en retard, on s'en excuse, vous écoutez France Culture, c'est bien. Et tout de suite, je vous laisse avec Denis Podalydès de la Comédie Française. Alors bonne soirée à tous.
Cette émission vous a été présentée en partenariat avec Entrée Libre, ce soir à 20h15 sur France 5.